Chapitre 20. La branche creuse. Tous les occupants du salon de Maître Clarac étaient en état de choc. Même le camp Mitch semblait touché par le déshonneur du professeur Lolness. Joe Mitch se voyait déjà maître du secret de Balaïna. Les réserves de sève brute qu'il accumulait allaient enfin servir. Avec des charançons mécaniques, la destruction de l'arbre irait deux fois plus vite. Les projets de Joe Mitch étaient simples. Ils tournaient autour d'un mot, le trou. Depuis sa naissance, Mitch voulait faire des trous. Des petits, des grands, des trous partout. C'était comme une maladie ou une démangeaison. Il rêvait de faire de la vie un grand trou. Pour ce projet fou, il lui fallait beaucoup d'argent. En avouant tout, Sim Lolness rendait possible le seul rêve qui poussait dans le grand trou noir du cerveau de Joe Mitch. 15 ans plus tôt, Joe Mitch était encore un modeste garde-frontière. La frontière traçait alors une simple ligne autour du tronc principal, à la base des basses branches. Mitch vivait dans un antre puant avec deux charançons qu'il avait dressés. Après la mort d'Elblou, survenue alors qu'il passait la frontière, Joe Mitch profita du trouble général pour mettre ses charançons au travail. Il commença à creuser une tranchée profonde sur son secteur de surveillance. Le conseil de l'arbre félicita ce jeune garde-frontière inconnu qui consacrait son temps libre à creuser pour la sécurité de l'arbre. Seul, le professeur Lolness et quelques vieux fous s'élevèrent contre cette initiative. Sim fit un discours qui s'appelait « L'égorgeur » et qui racontait comment cette tranchée creusée tout au long de la frontière coupait les veines de l'arbre et le mettait en péril. On s'écria « Il est doué, mais il exagère, ce Lolness. » Bientôt, on nous interdira de couper du pain pour éviter de faire mal aux tartines. Joe Mitch profita de ce petit succès et commença à élever quelques charançons qu'il louait pour creuser des maisons. Joe Mitch Arbor était né. L'entreprise se mit à grandir comme un petit ogre. Avec le système Balaïna, l'ogre allait devenir adulte. Devant l'effondrement de Sim, les larmes de Maya réapparurent. Cette fois, elles roulèrent sur ses joues, voulurent rentrer à la commissure de ses lèvres, mais se réfugièrent finalement dans son col. Zef lui tendit un mouchoir qu'elle ne vit même pas. Toby gardait son regard glacé posé sur son père. Il voyait se fissurer de tous côtés la fierté des Lolness. Thorn s'approcha de Sim Lolness et posa la main sur son épaule. « Courage, professeur, vous êtes un brave homme. » Toby vit frémir son père sous la main. « Un compliment, dit par un salopard, fait aussi plaisir qu'une bonne crème servie dans un cendrier sale. » Sim inspira et dit « Avant de vous expliquer où est la pierre, je vais vous conduire à la batte noire. Dites-nous simplement où elle est. C'est impossible. Je dois venir avec vous. Sans moi, vous ne trouverez jamais. » Limeur regarda son chef qui semblait ronflé tout éveillé. Joe Mitch agita la tête. Limeur dit « Vous ne sortirez pas d'ici. » Pour cette bande de retardés, un savant comme Sim était une espèce de sorcier capable de se volatiliser ou de leur glisser entre les doigts dès qu'il sortirait de la pièce. Sim ne semblait pas surpris de cette réaction, mais il prit un ton contrarié pour dire « Alors, mon fils vous emmènera. » Toby sursauta. Son père était fou. Toby n'avait pas vu la boîte noire depuis des siècles, il ne savait rien d'elle. Son père était devenu complètement fou. Mitch grommela quelque chose d'encore plus inaudible. Thorn et Limeur se penchèrent au-dessus du canapé en tendant l'oreille. Il leur envoyait une baffe flasque à chacun. Limeur gémit. Le grand voisin est d'accord. Votre fils va y aller avec Chatoun et Loche. De parfaites nounous, ajouta Thorn. Loche sourit. Il se coupa les lèvres avec les dents. Un peu de sang se mêlait à la bave. Quant à Chatoun, il ricanait plus franchement encore en répétant
Nounou, nous, nounou.
Toby ne comprenait plus rien à rien. Pas plus que Maya qui regardait son petit bonhomme envoyé par un père déséquilibré pour accomplir cette impossible mission. Un simple regard de Sim, celui avec le froncement du nez, celui des grands moments, renversa l'état d'esprit de Toby. Sim lui lançait un appel. Il lui demandait quelque chose. Un petit espoir venait en renfort du garçon. Toby comprit d'abord que sa mission était de gagner du temps. Il se rappelait que le seul des quatre qui n'avait pas été fouillé était son père et qu'il avait encore la pierre dans sa poche. La scène de crise du professeur pouvait être une ruse. Tout n'était pas perdu. En bonne nounou, Chatoun tendit à Toby sa main de tueur. Toby refusa de la prendre et mit les siennes dans ses poches. Il passa devant les deux dingos. Il allait sortir quand, au dernier moment, il se retourna. Toby croisa d'abord le visage inondé de sa mère qui le fit fondre. Puis il se tourna vers son père qui se grattait lentement la joue. Le professeur lui lança une phrase aussi bête que « Et ne recommence pas à te faire mal ». C'était idiot, déplacé, ridicule. Mais quand il franchit la porte, Toby en avait la certitude. Le regard de son père était un regard d'adieu, un regard qui lui disait « Pars, mon fils, ne t'arrête jamais. » Pour l'instant, Toby était suivi d'un quart de millimètre par deux psychopathes. Il aurait eu du mal à partir. Mais son petit cerveau, libre comme l'air, tournait dans tous les sens. Pas de pire situation au monde que la sienne. Et puisque son père l'avait conduit là, et que quelques indices lui laissaient espérer que Sim n'était pas fou, il devait y avoir un sens à tout cela. Pour l'instant, il marchait tout droit sur la branche, sans aucune idée de l'endroit où il allait. Il avait dans la tête la règle d'or de son père. Les choses ne changent pas pour rien. La clé de tout devait être là. Pourquoi le professeur avait-il brusquement changé ? Suivi de près par ses lugubres nounous, il commença par mettre au clair les principaux changements. D'abord, la claque donnée à Toby. Ensuite, la promesse de livrer ses secrets. Et enfin, la dernière phrase. « Et ne recommence pas à te faire mal. » Sim avait beau être un père normal, maladroit comme un autre, il ne disait jamais ce genre de choses. « Fais attention, tu vas encore te barbouiller, ne te casse pas une jambe. » S'il parlait pour la première fois de cette façon, ce n'était pas pour rien. Ne recommence pas à te faire mal. Drôle de conseil quand on envoie son fils au casse-pipe. Toby fit appel aux mots pour l'éclairer. Et les mots lui offrirent aussitôt une piste à suivre. La seule fois où il s'était fait vraiment mal, c'était au houppier, dans la petite branche creuse du bout du jardin. Il en gardait la cicatrice sur la joue. Il repensa au geste de son père qui avait montré sa joue en donnant le conseil. Toby souriait intérieurement. Le jardin du houppier, voilà où il devait aller. Il fit brusquement demi-tour et se retrouva face à Chatoun et Loche qui le considéraient en louchant. « Je me suis trompé, c'est par là. » Loche fit briller les lames de ses dents. Il n'aimait pas qu'on le balade. Chatoun prévint Toby. « Gaffe, bébé !» Ce que l'on peut traduire en langage post-préhistorique par « Méfiez-vous, jeune homme !» Ils s'écartèrent et le laissèrent passer entre eux. Pour rejoindre les houppiers, ils devaient traverser une branche secondaire et tourner à droite sous quelques feuilles dorées par le début de l'automne. Ils arrivèrent à la grille, toujours fermée par une chaîne cadenassée. « C'est là !» dit Toby terrorisé d'être déjà arrivé au bout. Il pensait aux quelques minutes qu'il allait gagner, le temps d'ouvrir la grille. Méloche avait déjà donné dans la chaîne un grand coup de dent, et Chatoun fit voler le portail. « C'est bon !» dirent-ils ensemble, en chantant comme d'affreux choristes. Toby contourna la maison. Il vit le béret de son père suspendu. Il vit les petits carreaux brisés des fenêtres, les rideaux déchirés, le jardin redevenu sauvage. Des herbes folles avaient pris racine dans la poussière de l'écorce. Les mains ballantes de Chatoun faisaient une tondeuse involontaire. Et maintenant, pensait Toby, et maintenant. Il savait que la boîte noire n'était pas là. Qu'attendait de lui son père? Il arriva face à la petite branche creuse. Devant lui, sur ses pieds, s'enfonçait le trou de son accident. C'était le fond du jardin. Il ne pouvait pas aller plus loin. Cette fois, s'il faisait demi-tour, il se retrouverait en fine lamelle aux pieds de Loche et de Chatoun. Muni à tout casser d'un cerveau pour deux, ses fêlés n'étaient pas très portés sur la patience. Une dernière fois, Toby fit tourner son imagination. Il réalisa que son père l'avait envoyé dans le seul lieu qui lui interdisait autrefois. C'est là qu'il l'avait rattrapé au dernier moment quand Toby était tout petit. Il lui avait dit « Quand tu auras 13 ans, je serai rassuré. Tu seras trop grand pour pouvoir rentrer dans le trou de cette branche morte. Mais pour l'instant, ne t'approche pas trop. » Derrière lui, Chatoun et Loche s'agitaient. « Alors, bébé ?» dit Chatoun. « C'est là !» répondit Toby mécaniquement. « Où là ?» demanda Chatoun. Et ils prirent une bonne minute en répétant « Oula, oula, oula !» Ce genre d'humour raffiné aurait pu les occuper une heure au moins. Mais quand ils reprirent leur souffle entre deux hoquets, ils découvrirent Toby au fond du creux de la branche. Ils s'arrêtèrent instantanément et se penchèrent vers le trou. Toby n'avait pas réfléchi. Il allait avoir 13 ans le lendemain. C'était le dernier jour pour faire cette grosse bêtise. Il était rentré dans la branche interdite. C'était le plan de son père. Il n'en doutait plus. Il voyait au-dessus de lui les têtes de ses gardiens. « Gave, bébé !» répéta Chatoun. Mais Toby avait disparu dans la petite branche. Chatoun voulut y glisser sa tête. Elle ne passait pas. Il enfonça donc la main et les bras. Ses ongles lacérèrent les parois du tunnel. Par malheur, deux coups de griffe atteignirent Toby à chaque épaule. Il saignait. Chatoun regarda son collègue. Loche trépignait. Il poussa Chatoun d'un grand coup de coude, enjamba le trou et se mit de l'autre côté. Allongé de tout son long sur la branche, Loche commença à ronger avec ses dents les contours du trou. Chaque coup de mâchoire faisait sauter des éclats de bois. Rarement on avait vu chez quelqu'un autant d'énergie pour scier la branche sur laquelle il était couché. De l'autre côté, Chatoun, perplexe, observait la scène qui lui rappelait une histoire drôle, mais laquelle ? Au premier craquement, il se rappela l'histoire en question. Loche avait relevé la tête. À voir l'expression de terreur sur son visage, il semblait aussi connaître l'histoire de l'imbécile qui, crac ! Dans un bruit épouvantable, la branche acheva de se briser. Loche, agrippé à l'immense vaisseau de bois, partait vers l'inconnu en hurlant « Toh !» Chatoun le regarda tomber et se cogner de branche en branche pour disparaître dans les profondeurs de l'arbre. Il parvint juste à dire « Ben, Loche ?» Il mit un certain temps avant de réaliser que Toby avait disparu avec Loche. Mais il répétait « Ben, Loche !» d'un air complètement égaré. Une patrouille envoyée par le soir même par Joe Mitch retrouva Chatoun au fond du jardin des houppiers, toujours debout, à la cassure de la branche. Les hommes de Mitch l'approchèrent lentement pour ne pas l'effrayer. Quand on lui demanda ce qui était arrivé, il répétait « Loche !» comme la tête d'un décapité qui rappelle sa moitié. Les hommes de la patrouille firent un pas de plus vers lui. « Loche !» coassa une dernière fois Chatoun, et il sauta dans le vide. Mais le nom qui hurla en tombant et qu'on entendit s'éloigner et se répercuter n'était pas le nom de Loche. Il vociférait « Toby !» Les 5 ou 6 soldats se penchèrent, effarés. Le bruit ameuta tout le quartier. À un petit millimètre sous leurs pieds, installé aux premières loges pour voir le spectacle, quelqu'un murmura pour lui-même. Pauvre Chatoun. C'était Toby. Quand il était descendu dans le trou de la branche, il avait constaté que le tunnel de bois rongé partait de deux côtés. Par réflexe d'habitude, il était allé du côté du bois sain, en amont de l'endroit où la cassure s'était faite. C'est là qu'il avait reçu les deux coups de griffe de chatouille. Il avait ensuite vu, devant lui, la branche s'effondrer avec le corps de Loche. Le pauvre Loche croisa son regard en tombant, y hurla son nom comme un désespéré. Toby s'accrochait dans son trou. Face au vertige, il lui restait un tout petit espace pour se tenir et éponger le sang de ses blessures. De là, il avait donc entendu le désespoir de Chatoun au départ de son compère, puis l'arrivée de la patrouille. Enfin, il avait assisté au saut de l'ange de Chatoun. Un hasard cruel voulut que ce dernier aussi aperçut Toby en passant à son niveau. Mais c'était trop tard. Il ne put rien faire d'autre que de crier un « Toby !» déchirant. En un quart d'heure, une foule de badauds se pressait sur la branche. Ils tenaient des torches ou des lampes à huile. Par chance pour Toby, on mit rapidement un cordon de sécurité à l'endroit de la cassure. Mais la foule poussait. Les rumeurs se multipliaient. Accident ou suicide? Que s'était-il passé dans ce jardin abandonné? On avait entendu le dernier grand cri de Chatoun. Et puis plus rien. Déjouant la surveillance, un garçon plus audacieux commença à s'aventurer dans la nuit au bout de la branche cassée. Il descendait entre les écharpes de bois arrachées, une torche à la main. Il avait sûrement moins de 15 ans, un regard assez dur, un menton large et carré. Ses déplacements précis ne provoquaient même pas le bruit d'un froissement. Toby le vit surgir tout à coup dans sa cachette. Il hésita une seconde. « Léo ? C'est toi, Léo ?» Le garçon recula, puis lentement approcha sa torche. « Toby !» Les deux amis se regardaient. 5 années entières de séparation et les meilleurs amis du monde se retrouvaient par hasard au bout de cette branche des cimes. « Toby et Léo, les inséparables. »« Toby, tu es revenu ? Aide-moi, Léo. » Léo leva sa torche plus haut. Toby put observer les changements de ce visage. Toujours cette même force, mais quelque chose de tranchant dans le regard, comme des morceaux de verre brisés. Léo regardait les blessures laissées sur les épaules de Toby par les ongles de Chatoun. Il articula. « T'aider ? Oui, Léo, je suis en danger. Ne me demande pas de t'expliquer, je dois juste rejoindre la foule. » Quelques années plus tôt, Léo n'aurait pas eu besoin de la seconde hésitation qui suivit. Toby répéta. « Aide-moi, vite !» Léo dit simplement « Viens ». Ils grimpèrent sur la section de la branche cassée. Arrivé en haut, à découvert, Léo souffla sa torche. Quelques hommes essayaient de contenir les curieux. Finalement, le cordon lâcha à un endroit. Toby et Léo purent facilement se mêler à la cohue. Ils s'enfoncèrent dans la foule de plus en plus nombreuse. Toby baissait la tête. « Tu te caches ?» demanda Léo. « Pourquoi ?» « Adieu, » dit Toby. Il serra son ami contre lui et disparut. Léo resta immobile dans la grande agitation. Un bizarre malaise l'envahissait, une culpabilité enfouie. Depuis des années, on faisait pousser en lui une mauvaise herbe qu'on appelle le soupçon. « Ne faites pas confiance, » répétaient les hommes du grand voisin. Et Léo obéissait. Léo Blue redoutait plus que tout la menace de dépeler. La peur que cultivait Joe Mitch avait rejoint en lui une terreur héritée de l'enfance et de la mort de son père. Les pelés avaient tué El Blue. Alors ils étaient sûrement en embuscade pour achever le reste de l'arbre. Léo devait se méfier de tout et de tout le monde. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il savait de ce Toby Lolness ? Plus grand-chose. Un ami ? Ce type qu'il n'avait pas vu depuis 5 ou 6 ans ? Oui. Il venait d'aider un inconnu. Un simple inconnu. Il sentit peser plus lourdement sur lui le poids de la faute. Joe Mitch arriva quelques minutes plus tard. Il avait confié la garde des parents Lolness à une douzaine d'énergumènes qui ne les quittaient pas des yeux dans le salon de Maître Clarac. Mitch débarqua sur la branche brisée, encadrée par Toine et Limmer. La foule s'écartait pour le laisser passer. Il resta longtemps assis sur son petit pliant à regarder le vide. C'est là que Joe Mitch eut son idée. Le vide l'inspirait toujours. Il fit signe à Limmer de s'approcher et lui bafouilla quelque chose. On avait l'impression qu'il lui tétait l'oreille. La foule était compacte tout autour. Limmer prit un air ravi. Le patron était génial. Primitif, mais génial. Limmer toussa et demanda le silence. « Chers compatriotes, le grand voisin a parlé. Écoutez son message. Un crime vient d'être commis contre l'art. La famille Lulnes, qui détenait le secret de Valaina, a profité de son exil pour vendre ce secret à la force étrangère. Chers compatriotes et voisins, regardez en face le crime des Lulnes. Désormais, la vermine des Pelés possède le secret de Valaina. » La foule garda le silence un instant et explosa de colère. Dans cette folie furieuse, un gaillard de 14 ans était resté silencieux quelques secondes de plus. Il avait ensuite levé le poing plus haut que tous. C'était Léo Blue. La haine qui avait enflammé son œil n'était pas près de s'éteindre. Quand Joe Mitch entra à nouveau dans le salon, Zef et les Lulnes tremblaient. Mitch se remit dans le canapé qui fit un bruit de baudruche qu'on dégonfle. Il y a des phrases que Mitch, par gourmandise, ne pouvait s'empêcher de prononcer lui-même. « Il est mort !» Sim et sa femme se regardèrent. « Toby, mort ?» Leurs yeux éteints cherchaient un dernier éclat dans le regard de l'autre. Mais il n'y avait plus rien. Zef pleurait. Cela faisait un petit miaulement qui n'arrivait même pas aux oreilles des parents de Lulnes. Aucun des trois ne vit rentrer l'imposante Milulka qui poussait devant elle Léo Blue. Mitch, surpris, tourna la tête vers ce nouveau venu qui dit la mâchoire tendue. « Je l'ai vu, il vit !» Sur toute la surface de leur peau, Sim et Maya Lulnes eurent la sensation d'une cascade d'eau chaude qui leur rendait la vie. Ainsi commença la longue traque de Toby.